Bienvenue sur VOA Afrique et dans l'Amérique, vous, Eric Manelakidza, avec vous au micro. Notre sujet de ce soir, États-Unis, justice et politique, les leçons d'une décision sans précédent, affirmait Max Koyaweda, assure la réalisation de cette édition. L'annonce de l'abandon des poursuites contre Donald Trump, président élu par le procureur spécial Jack Smith, a bouleversé le paysage politico-judiciaire américain en s'appuyant sur une politique vieille de plus de 50 ans visant à ne pas poursuivre un président en exercice. Cette décision soulève des interrogations sur l'équilibre entre justice, politique et état de droit aux États-Unis. Mais que signifie cette décision pour la démocratie américaine et comment la comprendre dans un contexte global? Quels enseignements peuvent en tirer des autres démocraties, notamment africaines, où la relation entre justice et politique est souvent complexe? Quels parallèles ou contrastes voyez-vous en Afrique avec le cas américain? Pour mieux comprendre les implications de cette décision, nous accueillons Calvin Dirk, analyste politique américain et directeur associé de RC Communication, un centre de réflexion basé ici à Washington DC. Calvin, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue dans l'Amérique et vous. Notre deuxième invité, Maître Joseph Mitterrand Fa, spécialiste du droit. Il est avocat basé à Silver Spring, dans le Maryland, ici aux États-Unis. Maître Fa, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir.
Notre troisième invité, l'ancien député burkinabé, Ismaël Diallo, un Africain engagé dans les questions de gouvernance. Bonsoir, Ismaël.
Bonsoir.
Bienvenue encore une fois à vous tous. Nous parlons d'abord du contexte et des enjeux immédiats. Calvin Dirk, je commence avec vous. Comment interpréter l'annonce de l'abandon des poursuites contre Donald Trump, président élu, dans le contexte actuel de polarisation politique aux États-Unis? Est-ce une victoire politique ou une nécessité institutionnelle?
Oui, je crois que premièrement, il faut souligner que l'abandon des accusations contre le président élu, c'est pas parce que faute de preuves il n'est pas coupable, c'est parce que la politique du département de la justice. Mais je crois qu'en général, c'est une victoire pour Donald Trump, mais c'est le contraire pour notre système ici aux États-Unis. Pourquoi? Donald Trump, il veut que tous ces électeurs qui soutiennent Donald Trump aient confiance en Donald Trump, pas dans les institutions, soit le gouvernement, les médias, les autres institutions. Alors, je crois que le message que ça envoie aux Américains, c'est que le système de la justice marche correctement quand le parti que je soutiens est en pouvoir et quand c'est l'autre parti, tout ce qu'ils font, ce n'est qu'une juste chasse. Et je crois que bien que ça soit une victoire pour Donald Trump, ce n'est pas bon pour notre système, parce que je crois que s'il y a des efforts juridiques de l'administration Trump à partir de janvier, la moitié de ce pays ne va pas accepter la prosecution, par exemple, d'un démocrate. Et je crois que ça, c'est le dommage qu'on a vu sur le système.
Maître Fa, quelle est la portée légale de la politique du ministère de la Justice qui interdit de poursuivre un président en exercice et en quoi ce cas est-il sans précédent et quels sont les enjeux pour les réformes éventuelles du système judiciaire?
Bien, bonjour encore. Je dirais simplement pour ma part que ça fragilise le système judiciaire parce que voici, dites-vous bien, qu'il y a un prévenu qui a des charges contre lui et des charges fortes qui étaient montées contre lui. Et il y a des fortes chances qu'il soit reconnu coupable dans un procès. Je dis des fortes chances au vu de ce qui a été présenté par le procureur Jack Smith. Mais qui malheureusement aujourd'hui le prévenu ne peut faire face à la justice parce qu'il est devenu président des États-Unis et qui malheureusement selon la loi du ministère de la Justice, qui est le ministre de la Justice, qui est mis au pouvoir par le président de la République Donald Trump lui-même, le ministère de la Justice ne peut poursuivre un président en exercice parce que dites-vous bien que cela fragiliserait les institutions fédérales, parce que ce serait difficile de voir un président de la République qui est concentré à résoudre la question, par exemple, d'Israël et de Palestine, qui prépare un déplacement là-bas, mais qui pendant son déplacement, il doit faire face au jury américain par rapport aux charges qui ont été imposées contre lui avant qu'il ne devienne président. Donc pour moi, je trouve que c'est vrai, c'est une victoire, on peut regarder comme cela, pour la base de Donald Trump, à la fois sur le plan politique et sur le plan judiciaire, parce que sur le plan judiciaire, il n'est plus poursuivi, mais sur le plan politique, il gagne, parce que non seulement tout le monde est avec lui, on voit que les charges contre lui ont été abandonnées, sa base ne verra pas la force, ou bien alors la grande chance de prouver sa culpabilité, on verra simplement que les charges posées contre lui étaient politiquement motivées pour l'empêcher de devenir président. Donc pour moi, il y a une portée, je ne sais pas, l'immensité de la portée ne peut pas être franchement saisie au cours de cette interview, parce que je pense qu'on n'a pas suffisamment de temps là-dessus, mais je serais ravi de m'étendre à suffisance là-dessus si on me donne l'opportunité.
Merci, Maître Fa. Ismaël Diallo, en tant qu'observateur extérieur, que retenez-vous du fonctionnement du système judiciaire américain et de ses limites? Quel parallèle ou contraste peut-on tracer entre ce précédent américain et les relations entre pouvoir judiciaire et exécutif en Afrique?
Je sortirai tout le monde en disant que c'est uniquement le pouvoir du plus fort. C'est tout. Ce qu'on appelle pompeusement la justice, ce qu'on appelle le droit, la liberté, l'égalité, tout cela, ce sont des instruments dans les mains de forts et de puissants. J'irai loin à faire le parallèle entre la condamnation du président Poutine, qui aujourd'hui doit bien chercher son chemin pour aller de la Russie ailleurs, parce qu'il est condamné par la CPI, alors que personne aujourd'hui n'ose penser que le premier ministre israélien...
Il n'a pas été condamné. Poutine n'a pas été condamné, il a été inculpé. Il y a eu un mandat d'arrêt.
Un mandat d'arrêt. Qu'il puisse être arrêté, je veux dire. Voilà ce que je voulais dire. Bon. Pour revenir à votre question, encore une fois, la justice, c'est la justice vraiment du plus fort. Parce que le président Trump a été pris, condamné au pénal et au civil, mais il n'a pas fait la prison parce qu'il est puissant. Hein. Ça aurait été un citoyen lambda qui aurait été oublié déjà. Fond d'une veuve, c'est certain. Alors, le monde est ce qu'il est, il faut l'accepter comme qu'il est. Il n'est pas absous totalement des crimes, il est tout est suspendu parce qu'il a les fonctions qu'il a. Alors, quand il sortira, quand il arrêtera ses fonctions dans 4 ans, est-ce qu'il sera encore devant le barreau? Est-ce qu'il aura encore des risques d'aller de répondre de ses méfaits? On verra bien.
Ça, c'est une question qu'on peut poser à Maître Fa. Maître Fa, en quelques secondes, est-ce que c'est possible?
Je n'ai pas bien suivi la question que tu m'as posée. C'est vrai que j'ai écouté.
Il voulait savoir si dans 4 ans, ou si le président élu, quand il aura fini son mandat, si la procédure permet de revenir à la charge.
Ce que moi je vais noter, c'est ça aurait été possible. Pour moi, je vois plutôt ce que Jack Smith a fait, ce n'est pas de mettre le contentieux en attente, ce qui aurait été meilleur à mon avis. On aurait pu décider simplement de mettre le contentieux en attente, mais le problème c'est que vous allez mettre un contentieux en attente pour 4 ans, c'est un peu très lourd. Ils ont simplement choisi de relaxer purement et simplement M. Trump. Donc je ne pense pas pour ma part que ce serait possible de revenir 4 ans plus tard et de le poursuivre pour la même charge, parce que vous aurez perdu les témoins, vous aurez perdu suffisamment de preuves, vous aurez perdu suffisamment de temps, et même économiquement parlant, ce ne serait pas justifié pour M. Donald Trump de refaire face à ces charges-là. Même le public américain ne serait pas pour cela. Si vous avez décidé de le relaxer purement et simplement parce que de façon stratégique ou bien de façon légale, vous ne pouvez plus le poursuivre parce qu'il est devenu président, ce serait un peu difficile de le poursuivre encore quand il a fini sa fonction de président. Voilà.
Oui, Maître Fa, en tant que président élu, Trump a promis de réorganiser le ministère de la Justice. Quels impacts cela pourrait-il avoir sur l'équilibre des pouvoirs dans le pays et l'indépendance judiciaire? Et quels mécanismes juridiques ou constitutionnels permettent de limiter les dérives d'un président en exercice aux États-Unis? N'importe quel président,
Ben, moi, je veux dire que ce n'est pas M. Donald Trump qui organise le système fédéral aux États-Unis. On a le système de check and balances ici aux États-Unis. Vous avez le pouvoir judiciaire, vous avez le pouvoir exécutif et vous avez le pouvoir législatif qui est fondé sur la Constitution. Maintenant, théoriquement parlant, l'organisation du ministère de la Justice, comment ça va se passer? C'est lui qui décide qui est-ce qu'il nomme comme ministre de la Justice. C'est lui qui décide qui est-ce qu'il nomme comme procureur. Et ceux-là peuvent décider de changer la politique interne de comment les enquêtes sont faites. Et donc, ça peut, en fonction des gens qu'il a nommés, décider si oui ou non il y a même suffisamment de preuves pour le poursuivre ou bien poursuivre quelqu'un. Je ne pense pas que lui, il peut, de façon unilatérale avec l'executive order, décider de changer le système fédéral américain alors que ce système est basé sur la Constitution. Et il faut, je pense, un amendement constitutionnel pour qu'il y ait un changement qui puisse affecter la façon dont les pouvoirs sont organisés aux États-Unis. Et je ne le vois pas capable de faire cela.
Calvin Dirk, la campagne de Donald Trump, président élu, qualifie cette décision de victoire pour l'État de droit. Vous-même, vous avez parlé de victoire. Que peut-on déduire de l'accueil de cette décision par le camp républicain et les opposants de Trump?
Oui, oui, je crois que pour lui, c'est une victoire et c'est aussi pour comment il veut que les Américains comprennent notre système. C'est-à-dire, quand il y a des politiciens, des présidents comme Donald Trump, tout effort contre lui est chasse aux sorcières. C'est pas bien fondé. Mais c'est le contraire s'il décide que quelqu'un de l'autre parti est coupable. Et je crois que parmi les défenseurs de Donald Trump, ils disent toujours que ce que Biden et l'administration Biden a fait, c'était l'affaire, c'est-à-dire d'exploiter la loi contre la concurrence électorale. Mais je crois que ça c'est sans fondation, sans base, parce que il faut se souvenir que sous l'administration Biden, il y avait des procès contre son propre fils. Il y a des procès de niveau fédéral contre le sénateur démocrate Menendez de New Jersey, contre le congressiste de l'État de Texas, Cuellar. Alors, je crois que ça montre que Biden, comme tous les présidents avant Biden, sauf Trump, respectent notre système et s'il y a des coupables ou des accusations crédibles contre une personne dans le gouvernement, le parti n'est pas important.
Ismaël Diallo, quelles leçons les démocraties africaines pourraient-elles tirer de cette affaire en termes de séparation des pouvoirs et d'état de droit et comment éviter que les institutions judiciaires soient instrumentalisées par le pouvoir politique?
Tout le monde commet l'erreur de croire que la démocratie est un fait accompli et qu'on arrive au bout du chemin. C'est une progression permanente. C'est une perfection permanente. Et pour cela, il faut avoir des citoyens engagés. Il faut avoir une société civile active. Il faut avoir des juristes, un système légal suffisamment indépendant du pouvoir politique. Tant que cela n'est pas le cas, on ne peut pas parler de bonne démocratie ni de bonne de justice. Il faudrait se lâcher à main. Dans beaucoup de pays, dans plus de pays que moi, le pouvoir politique est extrêmement lourd et extrêmement puissant, qui fait qu'il mène tout le monde en bateau en vérité. Que ce soit le Parlement, que ce soit la société civile, que ce soit la justice et les autres. Il y a très peu de pays vraiment où tous ceux-là peuvent se permettre de dire qu'ils sont totalement indépendants du pouvoir politique. Alors, c'est parce qu'il n'y a pas de permanence dans la progression qualitative de ces instruments-là. Il faudrait que cela soit. Sinon, ce ne serait pas possible. Nous avons des problèmes de démocratie en Afrique, pas parce que nous ne sommes pas des démocrates. Et je m'offusque terriblement quand j'entends des soi-disant intellectuels dire que la démocratie n'est pas faite pour l'Afrique. Je ne vois pas d'autre esprit défaillant que ce genre d'expression, ou alors de dire que il n'y a pas de pays qui s'industrialise ou qui se développe dans la démocratie. J'ai rarement entendu idiotie de ce genre. Et ce sont des idioties qui viennent d'intellectuels. Alors, si c'est le cas, pourquoi est-ce que des pays démocrates aujourd'hui continuent à être industrialisés? Pourquoi? Alors, non, la démocratie est une perfection. Il faut s'y atteler. Mais il faut des vrais citoyens qui s'engagent et qui, chaque jour, concernant toutes les questions de la collectivité, se sentent concernés et se mêlent pour trouver des solutions à ce problème. Si chacun dit « je ne peux pas parce que j'ai tort, je ne peux pas parce que je ne peux rien faire », alors la démocratie va être piratée.
Hypothéquée, oui.
Hypothéquée par quelques diplômés, par quelques soi-disant intellectuels qui en feront leur affaire.
En une minute, Ismaël Diallo, que retenir du système américain en termes de séparation des pouvoirs et des leçons pour les démocraties émergentes? En une minute. Ismaël Diallo, vous m'entendez? Oui. Que retenir du système américain en termes de séparation des pouvoirs et des leçons pour les démocraties émergentes? En une minute.
Il y a des pouvoirs forts aux États-Unis, c'est vrai, mais il faudrait une sorte de contrebalance, parce que l'exécutif ne peut pas, par exemple, l'imposer au Parlement quand il veut, comme il veut, et il faudrait que nous arrivions à cela. Malheureusement, nous sommes loin encore de cela. Mais encore une fois, nous ne pourrons arriver à cela que lorsque nous aurons des citoyens bien placés. Il faudrait tenir compte aussi du fait de, et je terminerai par là, du fait de l'aisance matérielle et financière des gens. Quand vous avez un parlementaire qui se suffit à lui-même du point de vue survivance, bon, il n'est pas obligé de suivre à la lettre ce qu'on lui dit de faire. Mais quand vous avez un parlementaire qui dépend d'un homme du pouvoir, de l'exécutif pour avoir, je ne sais pas moi, 2 000 $, 3 000 $, ben, il n'a pas de volonté, ce monsieur.
Maître Effa, ce précédent juridique pourrait-il affaiblir ou renforcer la démocratie américaine à long terme et le principe d'égalité devant la loi aux États-Unis? En une minute.
Ben, je pense que ça a affaibli le système, à mon avis. Dites-vous bien que lorsque vous êtes sénateur et que vous êtes accusé des crimes tels que M. Donald Trump l'avait accusé, il y a une forte pression de l'opposition pour que vous sortez du Parlement, pour que vous sortez du Sénat. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas eu cette même pression pour M. Donald Trump, qui, pendant qu'il était candidat, a été reconnu coupable à la fois au criminel et au civil pour ce nombre d'exactions? Ce devrait être suffisant pour demander qu'il quitte la course. Parce que là, maintenant, voici, on a à la Maison-Blanche un condamné au criminel qui malheureusement va échapper à la sanction pénale parce qu'il est devenu président des États-Unis.
Oui, mais ce sont les électeurs américains qui l'ont décidé ainsi.
Mais pour moi, on peut résoudre ce problème en changeant le code électoral. Parce que si vous êtes reconnu coupable ou criminel, vous ne pouvez donc même pas être candidat. Et donc ça, c'est un problème qu'il faudrait résoudre institutionnellement à travers le Parlement.
Oui, mais il était présumé... coupable, il n'était pas encore passé devant les juges.
Il a été reconnu coupable pour 34 chefs d'accusation. N'oubliez pas. Guilty.
Calvin Dark, quelle influence cette décision pourrait-elle avoir sur la perception des institutions judiciaires auprès de l'électorat américain? En une minute.
Oui, je crois que ça, c'est vraiment important parce que pour cette discussion, le focus, c'est bien Trump ou Biden ou les ennemis politiques. Mais je crois que les vrais effets importants, c'est pour notre système et ce que l'administration Trump va faire, le département de justice. Parce que je dis que le département de justice, ce n'est pas le cabinet d'avocats personnel de Donald Trump. Il y a beaucoup, beaucoup de problèmes. Il faut trouver des solutions parce que le département de justice, c'est l'avocat pour le peuple américain. Alors, je crois que pour les choses qui ne touchent pas Trump ou Biden ou Hillary Clinton ou Kamala Harris, mais les Américains normaux, est-ce qu'il y a la confiance dans le système qu'il protège les intérêts des Américains ou faire comme cabinet d'avocats personnel pour le président? Et je crois que ça, c'est un effet que tout le monde aux États-Unis va se sentir c'est beaucoup plus important que la situation légale d'un président, du passé.
Maître Fah, quels sont les garde-fous institutionnels aux États-Unis pour éviter une utilisation abusive des nominations présidentielles dans le système judiciaire, en une minute, si.
Malheureusement, je ne pense pas que tel que le système américain est organisé aujourd'hui, qu'il y a un moyen d'empêcher les nominations présidentielles dans le pouvoir judiciaire. Vous avez le Sénat qui est chargé de confirmer tous ceux-là qui sont nommés à la tête des grands départements, notamment le ministère de la Justice. Et il faudrait que des candidats, par exemple Mike Gertz, on sait qu'il n'aurait jamais été confirmé au Sénat, ni par le Sénat, ni par la Chambre, parce qu'il a été inculpé dans un nombre de choses. Donc pour moi, il y a ce check and balance qui est déjà en place, le Parlement qui est supposé contrôler si oui ou non les gens qui sont nommés par le pouvoir exécutif sont capables d'exercer dans leur profession, bien dans leur position, dans leur fonction, au bénéfice de la nation tout entière. Donc le check and balance, c'est également cette fonction-là. Si on a un parti, on a au Sénat, la Chambre des démocrates, on a les républicains qui vont faire leur fonction au lieu de s'occuper de la discipline partisane, mais de s'occuper de l'intérêt de la nation. Je pense que le système tel qu'il est organisé pourrait franchement empêcher cet abus du pouvoir de l'exécutif.
Oui, et voilà, le principe de la présomption d'innocence est très respecté ici aux États-Unis aussi. Oui, Ismaël Diallo, en une minute, quelle stratégie les pays africains peuvent-ils adopter pour renforcer l'indépendance judiciaire face aux interférences politiques?
Il faudrait, c'est un vue de l'esprit que je vais vous donner là. Il y a des vrais intellectuels qui n'ont pas peur d'exprimer leur point de vue. Et que parce qu'ils expriment leur point de vue, ils ne pourraient pas tirer en prison. Il faudrait une société civile très active qui ne soit pas là à tendre la gamelle à des ONG internationales pour avoir des sous, pour boucler leur budget. Il faudrait des parlements avec des députés qui jouent leur rôle et qui ne sont pas des agents au service de leur parti politique. De quel parti politique est au service de celui qui finance. Parce que malheureusement, nous en sommes là. Maintenant, comment sortir de tout ce symbolique? Je ne vous dirai pas que je suis très optimiste. Mais il faut l'être en formant les jeunes et en amenant les jeunes à comprendre que ce n'est pas l'argent, que ce n'est pas suivre un individu, qui qu'il soit, qui va amener le pays à aller de l'avant et amener de meilleures institutions. Il faut croire en ce qui est bon et il faut aller dans ce sens.
Calvin Dac, vous prenez une minute également. Finalement, que dit cette situation sur l'état de la démocratie américaine? Et peut-on parler d'un affaiblissement des normes démocratiques ou d'une adaptation pragmatique des institutions?
Je crois que c'est faute de respect pour les normes juridique. Et je crois qu'il faut penser un peu aussi à l'équipe autour du président élu. Parce que nous savons que pendant le premier mandat, ce qui empêchait beaucoup de ces conseillers de ne pas faire ce qu'il a demandé, c'était la peur des conséquences juridiques. Et je crois que maintenant, après la décision de la Cour suprême sur l'immunité du président, il n'y a pas cette peur qui empêche les gens autour de Donald Trump de faire ce qu'il veut, même si c'est contre la loi. Et je crois que ça, c'est vraiment important de regarder. C'est pas juste Donald Trump, mais c'est les gens autour de lui s'il peut promettre qu'il n'y a pas de conséquences juridiques pour leurs actions contre la loi pour son deuxième mandat.
Merci beaucoup. Alors que l'abandon des poursuites contre le président élu Donald Trump marque une étape cruciale dans l'histoire politico-judiciaire américaine, il offre aussi un terrain fertile pour réfléchir au rapport entre justice et politique dans les démocraties du monde entier. Au-delà des débats partisans, cette décision pose la question universelle de l'équilibre entre responsabilité individuelle et stabilité institutionnelle. Merci à Calvin Duck, analyste politique américain, maître Joseph Mitterrand-Fa, avocat basé à Silver Spring, et à Ismaël Diallo. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Eric Manilakis a été avec vous au micro.